enthousiasmant et plus passionnant que le message de l'Évangile. Le message d'un Dieu qui ne nous doit rien, mais qui, dans un élan, parce que c'est son cœur, parce que je ne peux le saisir que par la foi, d'amour, de grâce, de compassion, va quitter tout ce qu'il est, va renoncer à tout, va renoncer à lui-même pour venir nous chercher, pour marcher volontairement. C'est vrai que ce que Jésus fait sur la terre est extraordinaire. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est magnifique. Même ses opposants, même ses détracteurs, pas seulement ses disciples, pas seulement les foules, mais tous ceux qui sont contre lui sont obligés de reconnaître « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais entendu homme parler comme cet homme. Nous, personne ne peut faire les miracles que tu fais. » Et c'est vrai que le Seigneur fait des choses extraordinaires, mais en réalité, s'il vient sur la terre, c'est parce qu'il a une mission, il a un objectif, il a un but, et ce but, c'est la croix. Il est l'agneau qui a été immolé, dit Pierre, de toute éternité, avant même la fondation du monde. Il vient pour la croix, il vient pour mourir, mais béni soit Dieu, il ne vient pas seulement pour mourir, il vient pour ressusciter. Parler de la résurrection implique effectivement que Jésus soit bien, bel et bien mort, que Jésus soit réellement mort. Beaucoup de religions aujourd'hui contestent soit la mort, soit la résurrection de Jésus. Certains vous diront que Jésus n'est pas mort sur la croix. Forcément, s'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Qu'il n'était pas bien sur la croix, qu'il s'est évanoui, que ses disciples l'ont décroché à temps et qu'il a été passé une heureuse vieillesse quelque part, qu'ils ont pris soin de lui, qu'ils l'ont soigné. D'autres vont vous dire il est mort, mais ce n'est pas vrai, il n'est pas ressuscité, c'est un subterfuge. Dès le démarrage, dès le premier jour, quand le corps du Seigneur a disparu, c'est vraiment un sujet d'angoisse pour les chefs religieux. Un sujet de contrariété extrême pour les magistrats et les chefs religieux. Alors on paye les soldats, nous montre l'évangile de Matthieu. On paye des soldats pour dire que les disciples sont venus et ont dérobé son corps. Mais les preuves de la résurrection sont nombreuses, pas seulement dans les écrits, dans les évangiles qui sont authentiques, qui sont inspirés, infaillibles, qui sont démontrables et démontrés. Mais la plus belle preuve, j'aime le dire toujours, la plus belle preuve de la résurrection de Jésus, c'est la puissance de vie qu'il libère à l'intérieur de nos cœurs. C'est sa vie en nous. Vous êtes, vous, si vous êtes disciple de Jésus, la plus belle preuve de sa résurrection. Et le monde a besoin de voir Jésus en vous, Jésus ressuscité en vous. Et que vous viviez avec l'esprit de la résurrection. Vivre avec l'état d'esprit de la résurrection. La résurrection, ce n'est pas seulement des résurrections physiques. Pendant son ministère terrestre, Jésus a ressuscité des morts. Pendant qu'il était mort, au moment où il expire sur la croix, il dit « tout est accompli », qu'il baisse la tête, il rend l'esprit, « tout est accompli ». À ce moment-là, il y a des tremblements de terre, la nuit vient, il est seulement 3 heures de l'après-midi, mais les ténèbres couvrent la terre, il y a des tremblements de terre, les sépulcres s'ouvrent, et il y a des morts qui sortent des tombeaux. Parce que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, descend dans le Hadès, il descend dans le séjour des morts, il va prêcher aux esprits en prison, il va proclamer le salut, la délivrance dans des endroits que nous ne soupçonnons même pas. Et des morts ressuscitent et ils sont là à la vue de tous. Il se passe des choses extraordinaires. Et puis ensuite, le dimanche matin vient sa propre résurrection. Mais malgré cela, la résurrection reste souvent une belle théorie. Malheureusement, l'occasion d'une foi qui soit beaucoup plus intellectuelle, une foi de tête bien plus qu'une foi de cœur. Et il a fallu que le Seigneur Jésus, tu peux afficher le PowerPoint, merci beaucoup. Il a fallu que le Seigneur, dans sa grâce, lui effectivement que les disciples ont vu ressusciter, il a quand même fallu que dans sa grâce, le Seigneur vienne les chercher, les rechercher, qu'il vienne les rencontrer et qu'il se révèle à eux. Jésus a été, dit Paul aux Romains, Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance de par sa résurrection d'entre les morts. Si Jésus n'est pas ressuscité, ça signifie qu'il n'est qu'un simple homme. C'est un leader religieux comme n'importe quel autre leader religieux de ce monde. Et à ce compte-là, ben faites votre choix. Allez dans cette espèce de supermarché, dans cet immense bazar qu'est la religion aujourd'hui à la surface de ce monde, et choisissez une religion qui vous convienne. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, Paul dit de toute façon, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Mais si Jésus est ressuscité, et nous le vivons dans notre être intérieur, puisqu'il est ressuscité, alors nous avons cette assurance glorieuse, nous avons sa vie en nous. Jésus est réellement Dieu le Fils. Et si Jésus, non pas est ressuscité, moi je le sais, mais je parle à la façon de ceux qui ne le savent pas encore. Si vous lui demandez de se révéler à vous, il se révélera. Et vous allez comprendre la vie qu'il est capable de produire dans votre vie et de vivre cette dimension de résurrection en vous, à commencer par le pardon de vos péchés, à commencer par la régénération, la résurrection de votre esprit qui est mort par vos péchés et par vos fautes. Vous pouvez vous tourner vers lui, je vois beaucoup de personnes nouvelles, merci Seigneur, vous pouvez vous tourner vers lui, ne partez pas comme ça, ne partez pas sans avoir dit Seigneur, si tu es Dieu, si tu es effectivement ressuscité comme le disent ces chrétiens-là, eh bien révèle-toi à moi parce que moi aussi je veux le vivre, moi je veux te connaître et je veux avoir une assurance pour cette vie présente et pour l'éternité. Jésus est ressuscité, ça signifie qu'il n'est pas un homme, il n'est pas un homme dans le péché, il est Dieu sans péché, c'est pour ça que la mort n'a pas pu le retenir. Et par conséquent, il a raison lorsqu'il dit « Je suis le seul chemin, je suis la vie, je suis la porte du ciel, je suis la vérité, je suis le seul salut dont tu aies besoin. » C'est la preuve qu'il est Dieu tout-puissant et c'est la preuve qu'il est le salut parfait dont vous avez besoin aujourd'hui. Et c'est une première expérience que les uns et les autres, vous n'avez peut-être pas fait, mais qu'il faut absolument faire. Ce matin, je veux absolument vous parler aussi de résurrection spirituelle et on va ouvrir ensemble l'évangile de Jean au chapitre 20, s'il vous plaît. Évangile de Jean au chapitre 20. La résurrection, ce n'est pas une date sur un calendrier. La résurrection, c'est une puissance de vie en nous, c'est une façon de vivre par l'Esprit de Dieu et par les révélations de la parole. La résurrection n'est pas une date sur un calendrier. La résurrection, par la grâce de Dieu, c'est tous les jours dans mon cœur par le Saint-Esprit. Par la parole et par l'Esprit en moi, tous les jours, c'est Noël. Tous les jours, c'est Pâques. Tous les jours, c'est la croix. Tous les jours, c'est résurrection. Tous les jours, c'est Pentecôte. Parce que ça, c'est ce que nous vivons quotidiennement en esprit. Et je ne veux pas seulement vous parler d'une date. Je ne veux pas vous parler seulement de résurrection physique. Mais je veux vous parler de résurrection spirituelle. Et je veux en parler aux disciples bien-aimés. Je veux en parler aux disciples que nous sommes. Beaucoup de chrétiens savent qu'un jour, ils ressusciteront dans un corps glorieux, semblable au corps que Jésus avait à sa résurrection, et qu'ils seront avec lui pour l'éternité. Amen. Mais en attendant, je veux vivre chaque jour dans l'esprit de la résurrection. Et la résurrection, ce n'est pas seulement une date sur un calendrier ou un jour prochain, la résurrection pour moi, pour entrer dans l'éternité. La résurrection, c'est une façon de vivre. Et le Seigneur a dû venir rencontrer ses disciples. Et je suis sûr que ce matin, il veut rencontrer encore plusieurs, beaucoup de disciples parmi nous pour apporter des résurrections spirituelles, nous faire comprendre ce qu'il veut et peut faire dans nos cœurs spirituellement ici et maintenant. Alors, on lit dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, on va regarder trois cas de figure, trois cas concrets, dans lesquels les disciples ont eu réellement besoin que le Seigneur ressuscite ce qui était mort en eux. Et ce message, vous le voyez, s'intitule Rencontre avec le ressuscité, on va voir ce que le Seigneur a ressuscité en eux et ce qui a changé dans leur vie après cette fabuleuse rencontre. Jean chapitre 20, verset 19, c'est le jour, le soir de la résurrection. Jean 20, verset 19, le soir de ce jour qui est le jour de la résurrection, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». On descend un tout petit peu au verset 24. Là, dans ce qu'on vient de lire, il y aura déjà un premier point. On lit tout de suite, à partir du verset 24, ce qui alimentera la pensée du deuxième point. Verset 24, « Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas, cette fois-ci, se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étaient, je serais tenté de dire, encore fermées. Il se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. » Et ce verset 29, « Heureux ceux qui ont cru, ceux qui ont vu, pardon, et qui, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, ceux qui ont cru sans avoir vu », ce verset, il nous concerne, nous. Il est pour tous les disciples de tous les âges qui n'ont pas jamais, qui n'ont jamais vu le Seigneur et qui s'estiment et qui l'ont reçu effectivement dans leur cœur. La première chose, ce qui a changé profondément dans le cœur des disciples, et on parle bien de disciples, c'était des disciples de Jésus. Ils s'étaient donnés à lui, ils le suivaient. Pierre avait pu dire « Maître, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi ». C'était bel et bien des disciples. Le premier soir de la semaine, ils sont enfermés. Mais malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne sont pas seulement enfermés dans un lieu matériel. Les plus gros verrous qui nous empêchent de vivre la vie du ressuscité en nous ne sont pas des verrous matériels, ce ne sont pas l'épaisseur des portes qui fermaient entre les disciples et le monde extérieur. Les plus gros verrous, les plus grosses portes se trouvaient dans leur cœur, parce que le jour de la crucifixion, en plus de la mort de Jésus et en plus de la honte de leur échec, ce jour-là, tout s'effondre pour eux. Et ils sont, comme on l'a lu dans le texte, ils sont dans la crainte. Pourtant, Jésus leur avait annoncé sa mort et sa résurrection. Mais ils ne comprenaient pas, alors qu'ils avaient vu des résurrections, ils ne comprenaient pas ce que signifiait pour Jésus, comment il pouvait mourir et ressusciter des morts. Ils n'en avaient pas reçu la révélation. Jésus leur avait dit, « Je vous aime, mais vous allez tous vous planter. Et parce que je vous aime, je vais tous vous laisser vous planter. Parce qu'une fois que vous serez bien plantés, vous allez être brisés. Et quand vous allez être brisés, vous allez m'écouter comme jamais vous m'avez écouté. Et c'est là que vous allez commencer à vivre une autre dimension de vie. Parce que je viendrai vous rechercher et vous allez affermir vos frères. Parce que c'est mon plan. » Alors oui, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Mais les plus grosses portes et les plus gros verrous sont dans votre cœur. Et nulle part ailleurs, ça peut être des portes de peur. Là, pas à l'extérieur, mais là, à l'intérieur des cœurs. C'est pour ça que Jésus vient avec un message de paix, parce qu'ils ont peur. La paix soit avec vous. Il leur montre effectivement, à eux aussi, il leur apporte les preuves visibles. Ses mains, ses pieds, Jésus, dans son côté percé, leur présente les stigmates de son martyre, et ces stigmates plaident pour nous en permanence dans l'éternité. Il leur montre cette preuve visible. Par deux fois, il leur dit, la paix. C'est votre premier besoin. Vous avez besoin de paix. Vous êtes enfermés à l'intérieur, vous êtes mes disciples, mais enfermés dans la peur de l'avenir, enfermés de ce qui vous arrivera demain, enfermés de ce qui vous arrivera ou ne vous arrivera pas. Il y a une peur de l'avenir. Alors Jésus leur fait une promesse d'avenir. Le Père m'a envoyé, mais moi aussi je vous envoie. C'est une façon de leur dire, vous savez, entre vous et moi, je vous avais dit que vous alliez me renier, entre vous et moi, il n'y a rien qui a changé, je suis toujours le même. Et Jésus vient les rechercher une première fois, il reviendra une deuxième fois avec Thomas. Et comme les disciples sont toujours un peu durs de la feuille, pas nous, juste eux, donc Jésus dans sa grâce va revenir une troisième fois, parce qu'il y aura ce récit extraordinaire de la pêche miraculeuse dans le chapitre suivant. Les disciples ont de la joie. Il commence à se passer quelque chose dans leur cœur. Ils voient le Seigneur ressuscité. Mais il n'y a pas le déclic. Il n'y a pas la révélation. Ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Alors, quelque part, heureusement qu'il y avait ce fameux Thomas qui, lui, effectivement, voulait absolument croire que ce qu'il voit. Parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, 8 jours après, les disciples qui ont vu Jésus ressuscité, sont toujours enfermés, ils sont toujours au même endroit, ils n'ont pas bougé. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'ils sont toujours enfermés dans la peur? Le texte ne le précise pas, mais c'est quand même franchement étrange qu'ils soient exactement au même endroit et que rien n'ait bougé. Mais une chose est sûre, on le sait en considérant les évangiles, les disciples ont souvent bien du mal, et les disciples que nous sommes ont souvent bien du mal à saisir des réalités spirituelles, à les approprier dans notre cœur pour qu'elles deviennent puissance de vie. Et c'est ce dont ils avaient besoin. Ils ont bien du mal à saisir les choses et à comprendre l'avenir que Dieu a pour eux. Vous savez, frères et sœurs, il était beaucoup plus facile pour Jésus de ressusciter un mort que de ressusciter ce qui est mort dans le cœur du disciple. À la résurrection de Lazare, comme dans les autres cas de résurrection, Jésus n'a pas eu besoin de parler beaucoup, il n'a pas eu besoin de s'agiter, de faire quoi que ce soit. Roulez-moi cette pierre, parce que la plus grosse pierre au tombeau de Lazare, ce n'était pas la pierre matérielle, la plus grosse pierre, c'était celle qui était dans le cœur de Marthe, de Marie, de ceux qui étaient là, une pierre de tristesse, de déception, de fatalisme. Et Jésus leur dit, roulez la pierre, une fois que la pierre est roulée, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Lazare sort, et le mort sortit. 2 mots et c'était réglé. Mais combien de messages, combien de paroles Dieu dans sa grâce, Jésus dans sa grâce, doit-il apporter et apporter encore pour faire sortir de leur tombeau, pardonnez-moi, des chrétiens qui sont encore liés dans leur bandelette, qui ne sont plus dans la tombe, mais qui ne sont pas libres. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la dimension d'esprit. Et le Seigneur vient et il veut une fois de plus nous visiter, nous booster par l'esprit de la résurrection. Et finalement, mais c'est peut-être une très bonne chose que Thomas n'était pas là, on ne sait pas pourquoi, mais qu'il n'était pas là le premier soir. Parce que du coup, Jésus revient dans sa grâce, ça m'interpelle, première chose. Je me dis, Seigneur, c'est quand même réellement extraordinaire que tu sois revenu juste pour un. Parce que vous ou moi, peut-être, on aurait dit, bon, ben, Thomas, t'es bien gentil, de toute façon, je ne vois pas ce que tu avais à faire de mieux que d'être là et tu n'étais pas là. Puis en plus, tu crois que ce que tu vois, en plus, tu me mets au défi, en plus, il faut que je revienne. Ils sont 10 à t'avoir vu qu'ils m'ont vu, à t'avoir dit qu'ils m'ont vu, mais non, mais toi, toujours pas. Et voyez la patience de Dieu et sa grâce. Peut-être que ce matin, tu es ce 11e qui a tellement de mal à croire, tellement de mal à saisir dans ton cœur. Et peut-être que tu es là et tu te dis, mais si il fait ça, alors je croirai. Si Jésus, alors oui, et si je vois ça, ne sois pas incrédule, mais crois. Alors Jésus, dans sa grâce, est venu rechercher Thomas. Comme il vient dans nos vies nous rechercher, il nous apporte des preuves dont nous avons besoin, mais ces preuves ne peuvent pas durer indéfiniment parce qu'il faut absolument entrer dans une dimension de foi, être libéré de la peur de l'avenir, mais il faut absolument entrer dans une nouvelle relation de foi. Et c'est ce dont Thomas avait besoin parce qu'il y avait des tas de choses qu'il n'avait pas encore saisies du premier coup. Thomas, il te faut une nouvelle relation de foi. Oui, tu es disciple de Jésus. Thomas, ça fait 3 ans et demi que tu suis Jésus. Ça fait 3 ans et demi que tu es au bénéfice des meilleurs enseignements C'est Jésus lui-même qui les donne. On ne peut pas rêver mieux, je pense. Hein. Ça fait 3 ans et demi qu'il est au bénéfice des meilleurs messages apportés par le meilleur des envoyés, le meilleur des prédicateurs. Jésus lui-même. Ça fait 3 ans et demi qu'il voit des choses plus hallucinantes les unes que les autres. Il a vu des morts ressuscités. Il a vu des paralytiques marcher, des sourds entendre, des aveugles. Non, ça, ce n'est pas les aveugles, ça. Ça, c'est les sourds, parce que les yeux, ils sont là, en fait, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, ça, c'était pour vous détendre 2 secondes. Vous aurez un truc à raconter ce midi. Le pasteur, il sait... Voilà, OK, ce n'est pas grave. Il a vu des aveugles voir. Extraordinaire. Il a vu Jésus et Pierre marcher sur l'eau. Il a vu des tempêtes apaisées. Il a vu des foules être nourries avec 5 pains et 2 poissons. Voilà ce qu'il a vu. Voilà le quotidien de Thomas. Et quand les autres lui disent « Il est ressuscité, on l'a vu !» Ouh là là, on ne va pas s'emballer. Hein. Thomas, tu as réellement besoin d'une nouvelle relation, une nouvelle dimension de foi avec Jésus. Oui, tu es disciple. Oui, tu as déjà vu des choses extraordinaires. D'ailleurs, pardonnez-moi ici les uns et les autres. Tous, on en a vu d'une façon ou d'une autre. Si demain, vous en voyez plus, pardonnez-moi, ça ne changera pas votre vie. Parce que la foi, écoutez-moi bien, ne vient pas des miracles. La foi ne vient pas de ce que nous voyons. La foi vient de la parole de Dieu. Elle vient de la parole de Jésus. Et quand il y a un miracle, ça m'encourage. Ça me booste, ça me confirme. Je me dis... On a vraiment bien fait de croire en Jésus. Mais miracle ou pas miracle, que je vois ou que je ne vois pas, la parole ne vient pas de ce que je, la foi ne vient pas de ce que je vois. La foi vient de ce que j'entends. Romains 10. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu, d'une rencontre spirituelle, de cœur avec lui. Thomas, c'est le type de disciple terre à terre. Les yeux toujours sur le visible. Toujours scotché aux circonstances. Tellement cartésien, tellement rationaliste, il a toujours besoin d'une preuve. Thomas, c'est le disciple, son problème c'est qu'il marche par la vue et non pas par la foi, et ce qui amène toujours malheureusement des propos en décalage. Chaque fois qu'il y a un problème, certains voient des opportunités pour la gloire de Jésus, sa manifestation. Mais Thomas, lui, il voit juste toujours un problème et il voit toujours comment ça va mal se finir. Jean chapitre 11. Le Seigneur tarde pour aller au chevet de Lazare qui finalement meurt, mais c'était le plan parce qu'il fallait le ressusciter. Et lorsque Jésus dit « Lazare est mort, maintenant qu'il est mort, on va y aller. Maintenant qu'il est mort, allons-y. » Et là, les disciples lui disent « Maître, il y a quelques jours, les Juifs voulaient encore te lapider en Judée. Et maintenant, tu retournes en Judée alors que Lazare est mort. Oh, Seigneur, c'est quoi ce plan ? » Et le seul qui va dire quelque chose d'extrêmement positif et constructif, quelqu'un qui a tellement d'espoir dans le cœur, le genre de gars qui ne vous plombe jamais l'ambiance, Thomas, il est là, il dit, « Bon, Jean chapitre 11, vous vérifierez. Eh bien, allons-y afin de mourir aussi avec lui. » Qui dit ça ? Ben, c'est Thomas. Voilà le genre de disciple, malheureusement, calchic pour vous plomber l'ambiance. Toujours extrêmement lourd, extrêmement terre-à-terre, toujours négatif. Bonjour la confiance, le Seigneur lui dit, je vais aller ressusciter Lazare. Il lui dit, bon, on va tous mourir avec lui. Bonjour la foi. Thomas, résigné. Thomas, fataliste. Thomas, à la limite du cynisme parfois. Et là, le Seigneur lui dit, Thomas, arrête d'être incrédule, arrête de douter, arrête de demander toujours des preuves, mais crois simplement. Je te demande de croire. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas a besoin d'une autre dimension de foi. Il a dû cesser de marcher en fonction du visible. Combien de fois, bien-aimé ? Malheureusement, mais le Seigneur est patient. Il revient encore. Je suis là. Vous êtes là. Combien de fois le Seigneur, dans sa grâce, a dû venir et revenir et revient encore te chercher ce matin, parce qu'on a bien du mal à saisir, même si on est disciple, on a du mal à saisir et à vivre réellement ce que le Seigneur nous dit. Combien de discussions dans les cœurs, combien de raisonnements dans nos cœurs, combien de prétextes, combien d'excuses. Combien de discussions vaines qui alourdissent nos vies, alourdissent notre marche. La rencontre de Thomas avec Jésus n'est pas seulement une rencontre physique. C'est une rencontre d'ordre spirituel. Et là, il y a quelque chose qui pénètre son âme, quelque chose de nouveau qui se crée. Il entre dans une nouvelle relation de foi. Et il entre aussi dans une nouvelle relation avec Jésus puisqu'il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a enfin accepté de s'abandonner totalement à Jésus et à sa parole. Et puis, en plus de cette relation, cette dimension de foi nouvelle, Thomas, il a besoin de quelque chose de particulier, il a besoin d'une autre relation avec Jésus lui-même. Il a besoin de cette relation dans laquelle Jésus n'est pas seulement son ami, même s'il l'est, amen. Jésus n'est pas seulement son frère, il l'est, amen. Jésus n'est pas seulement son conseiller, amen. Jésus n'est pas seulement son sauveur, amen. Jésus seulement n'est pas seulement un pourvoyeur, n'est pas seulement un guérisseur. Pardonnez-moi, ce n'est pas un gris-gris, une assurance tout risque dans ma poche que je sors quand j'ai un petit problème ou je sors mon petit contrat d'assurance parce qu'il faut que le Seigneur me fasse ça, me règle ci et m'aligne encore ça et mette encore ça d'équerre dans ma vie parce que ça ne va toujours pas comme je voudrais que ça aille. Le problème de Thomas, de ce disciple, c'est qu'il n'avait toujours pas capitulé devant Jésus. C'est fou ce que je dis, mais je pèse mon mot. Il n'avait pas capitulé devant Jésus. Et là, il va tomber, je présume, j'en rajoute peut-être à peine, il va tomber aux pieds de Jésus et il lui dit cette phrase extraordinaire, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Seigneur, mon kurios en grec, Adonai en hébreu, kurios en grec, mon Seigneur, c'est-à-dire mon souverain, mon chef, mon maître, celui qui, le kurios, c'est celui qui règne. Thomas va enfin, en reconnaissant mon kurios, admettre et reconnaître le règne de Jésus et de sa parole dans sa vie et sur sa vie. Trois ans et demi à entendre et à voir les plus belles choses de la part de Jésus lui-même, mais ce soir-là, sa plus grande bénédiction, le plus grand miracle dans la vie de Thomas, c'est qu'enfin, il va trouver sa véritable place au pied de Jésus le Seigneur. Amen. Et ça va faire toute la différence pour lui. Il va enfin se soumettre au Seigneur qu'il pensait connaître et servir, mais finalement pas si bien que ça, pas tant que ça. Je sais que plusieurs, ce matin, en sont à ce stade-là. Oui, Jésus est ton sauveur. Amen. Oui, tu as l'assurance dans ton cœur un jour d'une résurrection finale et d'une éternité avec lui. Amen. Oui, tu as cette assurance, effectivement, qu'il est ton ami, qu'il est ton frère, qu'il est ton conseiller, que tu ne le dérangeras jamais. Tu as cette assurance que même quand tu es infidèle, il demeure fidèle. Amen. Mais la vie est bien pénible, bien lourde, bien difficile, parce qu'il y a une dimension, il y a une qualité de vie lorsque le Jésus ressuscité, pas crucifié seulement, ressuscité, éclatant de gloire, de lumière et d'autorité, voit nos genoux fléchir, pour ne pas dire tomber à ses pieds en adoration, en capitulation et en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et c'est ce qui a entraîné Thomas et tant d'autres dans toutes les générations dans une autre qualité de vie. Est-ce peut-être, certainement, de cette relation nouvelle dont tu as besoin avec Jésus aujourd'hui? Dernier cas de figure, on prend l'évangile de Luc au chapitre 24 et on va parler un peu de Cléopas et de son ami qui, eux aussi, sont dans une forme d'enfermement. eux aussi ont besoin d'une nouvelle relation, ils ont besoin d'une nouvelle révélation de Jésus. On prend Luc chapitre 24, s'il vous plaît. Les versets s'affichent ici à partir du verset 13. La lecture sera ici un peu plus longue. Luc chapitre 24, verset 13. Voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Qu'est-ce qui pouvait bien les empêcher de reconnaître Jésus ? C'est juste derrière. Jésus leur demande : de quoi vous entretenez-vous en marchant ? Une autre version dit : de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si tristes ? Ils s'arrêtèrent, effectivement, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Ben, quoi, leur dit-il ? C'est pas que Jésus veut faire le faux ou l'hypocrite, mais il veut les amener à confesser, il veut les amener à parler. Il faut qu'ils sortent ce qu'ils ont dans le cœur. Ils répondirent : mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple, comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que... Nous espérions que... Ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Mais quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, ils l'ont trouvé, les choses telles que les femmes l'ont dites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : ô homme sans intelligence, homme dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, qu'il entre dans sa gloire ? Commençant ensuite par Moïse, les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures tout ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : reste avec nous. Le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ça c'est la révélation, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais Jésus disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : notre cœur ne brûlait-il pas au-delà de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, qu'il nous expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, etc., etc. Amen. Cléopas et son ami ont besoin de connaître aussi l'esprit de la résurrection en eux, parce qu'ils sont en deuil. Et beaucoup de choses en eux sont mortes avec la mort de Jésus. Beaucoup de disciples, beaucoup de chrétiens qui aiment le Seigneur sincèrement, qui ont une droiture de vie, qui sont sérieux avec Dieu, sont comme Cléopas, marchent avec Jésus. Ils marchent avec Jésus, rendez-vous. Ils ont marché avec Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas sa voix, ils ne reconnaissent pas son enseignement, ils ne comprennent pas, ils ne le reconnaissent pas pendant qu'il est en train de marcher, ils ne reconnaissent pas dans les circonstances, ils ne comprennent pas le plan. Et puis il y a de la tristesse qui est là, qui s'installe. Ils marchent avec Jésus, mais le pas est lourd. Le cœur n'est pas léger, le pas est lourd, la marche est pénible, la tristesse est souvent dans le cœur, pour ne pas dire installée dans le cœur. Et puis tous, les uns et les autres, bien-aimés, à un moment de nos vies, tous, on peut tous dire à un moment, j'espérais que, légitimement, tu n'avais pas tort de croire que, et ça aurait été possible. Et le Seigneur ne l'a pas fait. Et ça ne s'est pas passé comme légitimement. Tu n'as rien fait de mal en pensant que, oui, Jésus, parce qu'il est Dieu, pouvait, mais ça ne s'est pas passé comme tu pensais. Nous espérions que, ce qui signifie que leur vie est lourde parce qu'elle est envahie par la déception, elle est envahie par la tristesse, parce que les choses ne se sont pas passées comme ils pensaient. Beaucoup de choses dans nos vies, dans ta vie, ne se sont pas passées comme tu pensais. Et malheureusement, tu es bloqué. T'es en boucle. Nous espérions que. Est-ce que t'es le seul frère, sœur, à ne pas savoir ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vécu? Est-ce que vous êtes les seuls à ne pas savoir ce que nous on a vécu ici à Aubagne? Nous espérions que. Et ça, à l'intérieur du cœur, ça bloque. C'est un verrou, c'est une porte blindée. Et malheureusement, ça alourdit la marche d'un disciple, d'un chrétien qui est certes sincère, mais qui manque tellement de vie, tellement de liberté, tellement de joie, tellement de paix. Et peut-être que comme eux, peu importe ton sujet, tu es en boucle. Jésus voulait aller plus loin. Ça signifie pour toi que Jésus voudrait t'amener à dépasser ça. Dépasser ce qui est en train de te plomber. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à table avec Jésus. Sans vous manquer de respect à qui que ce soit. Tu ne penses pas qu'il serait peut-être désespérément temps que tu te mettes vraiment à table avec Jésus? Parce que c'est là, à table avec lui, dans la communion, dans la révélation de sa parole et de son esprit, que tu vas recevoir des libérations, que tu vas recevoir des révélations salutaires, parce qu'il veut se révéler à toi. Il veut te révéler son plan. Il veut te révéler, non pas le pourquoi en un seul mot des choses qui se sont passées, il veut te révéler le pourquoi en deux mots, les choses qui ne se sont pas passées comme tu pensais. Pourquoi ? Le but, le plan. Mais ça ne peut venir que s'il y a réellement une dimension de communion nouvelle et réelle, profonde, qui s'installe avec le Seigneur. Parce qu'il veut les emmener vers un avenir, parce que l'échec... Je sais, je suis givré comme prédicateur. L'échec est salutaire. On a besoin de nos échecs. Pour les disciples, ça a été largement salutaire. Et quand ils vont recevoir la révélation, c'est seulement à table avec Jésus, quand ils rompent le pain, c'est dans la communion avec lui, dans l'intimité avec lui, qu'à ce moment-là, il va y avoir un changement radical de vie, mais une vie, ça commence par l'être intérieur. Ça commence par un changement de mentalité, ça commence par un changement d'état d'esprit. Ils ont une façon de voir différente. Ils ne pensent plus au pourquoi, ils pensent au pourquoi. Il y a un feu nouveau qui vient dans leur cœur par la révélation que Jésus leur accorde. Et là, enfin, alors que le pas était lourd, là ensuite, tout devient différent. C'était en noir et blanc, c'était en 2D, maintenant tout devient en 3D et en couleur parce que la vie, la dimension du ressuscité a pénétré leur cœur. Alors ça y est, Christ est ressuscité, donc c'est bon, tout a un sens. Il n'y a plus rien d'impossible. Christ est ressuscité, si Christ est ressuscité, il n'y a plus rien d'impossible. Alors amen, c'est fini les petits cultes, c'est fini les petites réunions de prière, c'est fini tes soucis qui te clouent le bec et qui te maintiennent en silence sur ta chaise, réunion après réunion. C'est fini de tourner dans les mêmes boucles, dans les mêmes pensées, dans les mêmes limites, les mêmes impossibilités, les mêmes déceptions, les mêmes échecs. Si vous ne dites pas « Amen, je m'en fiche, je suis là jusqu'à 20h », il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça va se terminer plus vite. C'est fini les petites réunions, c'est fini les petits moments de prière, c'est fini les petites lectures bibliques. Tout ça, je vis avec le puissant ressuscité dans mon cœur. Donc tout a une dimension nouvelle. Et voilà ce qu'ils vivent. Et là, ils sont boostés, ils sont dynamisés. On en a terminé avec les regrets, on en a fini avec les doutes, la fatalité, tiraillée par leur passé, la peur de l'avenir pour eux aussi, comme pour les 10 qui étaient le soir de la résurrection dans la chambre. Et là, ils sont boostés, ils sont dynamisés. Et ils retournent. Où ? À Jérusalem. Hein ? À Jérusalem ? Vous n'êtes pas bien. Vous savez ce qui s'est passé à Jérusalem il y a quelques jours ? Ah, ce n'est pas un problème. On y retourne. Et parce qu'on vit dans la mentalité du ressuscité, on va être vivant et vainqueur et triomphant même. Justement là où tout nous avait anéanti, c'est justement là qu'on va vivre. Oui, rien, on le sait à Jérusalem, rien ne sera facile. Ta rencontre avec le ressuscité, si tu le veux aujourd'hui, elle ne va pas te faire une vie facile demain. Elle va t'animer par l'état d'esprit du ressuscité, et un état d'esprit de victoire et de triomphe où tu pourras dire « Je peux tout par celui qui me fortifie. Je rends grâce à Dieu qui, par Christ, me fait toujours triompher parce qu'il est vivant dans ton cœur et pas dans ta tête. » Alléluia. Alors en conclusion, bien-aimés, nous savons tous ici, pour ceux qui sont déjà à Jésus, nous savons tous dans notre tête, c'est sûr, minimum, que Jésus est ressuscité. Ça, dans notre tête, c'est clair. Mais dans notre cœur, Christ est ressuscité. Alors, tout est possible. Christ est ressuscité et il vit en toi. Ça signifie qu'il n'y aura plus aucune limite à la dimension de ta vie. Si ce n'est les limites que tu voudras bien fixer. Les limites sont celles que nous fixons au Seigneur. Mais Christ ressuscité, c'est une vie de puissance, c'est un boulevard de possibilités qui s'ouvre devant moi. Alors je vais terminer avec ça et je voudrais vraiment faire un appel pour laisser à chacun la possibilité vraiment de prendre position, de crier à Dieu dans son cœur, de dire à Dieu, de confesser, d'abandonner peut-être le cas de figure dans lequel il se trouve. Si le royaume de Dieu, si la résurrection de Jésus a dû devenir une réalité dans l'être intérieur, dans le cœur des disciples, s'ils ont eu besoin de révélation, alors je sais que nous aussi, nous en avons besoin. La résurrection de Jésus, c'est bien plus qu'une confession de foi. C'est une qualité de vie présente dans ton être intérieur. La résurrection de Jésus, ce n'est pas ta résurrection bientôt. Beaucoup de chrétiens savent qu'un jour, ils croient à la résurrection finale. Mais en attendant, est-ce que tu vis cette dimension glorieuse dans ton cœur ? L'Esprit de Dieu voudrait réellement te faire connaître la puissance de vie du glorieux ressuscité, Jésus en toi. La résurrection n'est pas une théorie, la résurrection n'est pas une date sur un calendrier, la résurrection, c'est une révélation qui booste ma vie. Pendant que nos têtes sont baissées, que nos cœurs sont en prière, je ne sais pas pour les uns, les autres, pour toi, je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas par quel chemin tu es passé pour commencer. Peut-être vous qui êtes là pour la première fois, l'une des premières fois, vous ne vous êtes peut-être jamais repenti de vos péchés, vous n'avez peut-être jamais vécu cette expérience de salut, de pardon des péchés, de recevoir Jésus comme sauveur, de lui offrir, de lui donner votre vie, de l'accepter comme sauveur et comme Seigneur. Peut-être vous n'avez jamais fait ce pas, vous vous êtes jamais engagé avec lui. Mais il faudra commencer par là, et si vous êtes dans ce cas et que vous désirez, je vous inviterai à vous lever à votre place, parce qu'il faut prendre position pour Jésus. Jésus a pris position publiquement à la croix pour toi et pour moi. Sa mort est publique, son martyr est public. Sa résurrection est publique. C'est le temps maintenant, c'est le jour du salut. C'est le jour de lui donner ta vie et de prendre un nouveau départ avec lui. Peut-être que tu es déjà disciple de Jésus et, comme les 10, tu es enfermé. Pas enfermé dans un lieu géographique, tu l'as compris, mais peut-être es-tu enfermé dans des peurs, des inquiétudes. Peut-être es-tu enfermé dans un deuil. Peut-être es-tu enfermé dans tes doutes quant à ton avenir, la peur des autres, la peur peut-être d'un nouvel échec. Peut-être tu n'oses plus trop t'engager parce que tu regardes beaucoup plus tes échecs que celui qui veut te communiquer toutes ses victoires. Et tu te retrouves, bien que disciple de Jésus, tu te retrouves prisonnier de ton propre cœur. Peut-être comme Thomas, à tes peurs, tes doutes, tes inquiétudes, ta peur de l'avenir, peut s'ajouter une forme d'incrédulité. Tu serais peut-être bien tenté de mettre des conditions à Dieu et de dire « si je vois ça, s'il se passe ça ». Des preuves, tu en as eues. Des miracles, tu en as déjà vu. Des interventions de grâce, de fidélité de Dieu dans ta vie, dans celle de tes frères, tu en as déjà vu. Et ce dont tu as besoin aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ce n'est pas d'un nouveau miracle. Aujourd'hui, tu as besoin de capitulation. Tu as besoin d'arrêter et de poser toujours des conditions à Dieu. Il faut que tu arrêtes de t'excuser, de trouver des prétextes, d'argumenter. Arrête de te dédouaner, arrête de te cacher, arrête de fuir. Tu dois entrer dans une nouvelle relation, une dimension de foi. Tu dois marcher par la foi et non plus par la vue. Tu dois accepter Jésus, non plus comme ton sauveur, ton ami, ton frère ou ton guérisseur, mais tu dois l'accepter maintenant, aujourd'hui, comme seul et unique Seigneur, roi, maître et souverain de ta vie. Parce que ce sera une dimension nouvelle pour toi. Peut-être comme Cléopas, tu es là avec son ami, le cœur si lourd. Oui, Jésus est à côté de toi. Oui, tu marches avec lui. Oui, il est dans ta vie à proximité. Mais oui, tu le parles. Mais oui, tu le pries. Mais qu'est-ce que c'est monotone tout ça? Où est l'explosion de vie, de joie, de paix, de passion, de feu, l'élan? Où est le ressort dans ta vie? Où est l'esprit de la résurrection, mon frère, ma sœur? Peu importe ta situation, tu as besoin, comme Paul, de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alors, quel que soit votre cœur, votre besoin, je vous invite simplement à vous tenir debout à votre place pendant que nos yeux sont baissés, qu'on est respectueux de ce moment. Mais c'est le temps, c'est maintenant, il faut prendre position. Il ne faut pas rester spectateur. Il ne faut pas simplement attendre que quelque chose tombe tout cuit du ciel. Tu as besoin de cet esprit du ressuscité en toi. Tu as besoin de vivre dans ces dimensions nouvelles. Tu as besoin de liberté. Tu as besoin d'un avenir nouveau. Tu as besoin de paix, tu as besoin de joie. Tu as besoin de foi. Tu as besoin d'obéissance. Tu as besoin de sa parole. Bien sûr que Jésus est la vie. Bien sûr qu'il est ta vie. Mais ce qu'il veut absolument, c'est que tu comprennes ce qu'il a dit. Je suis la résurrection et la vie. Et ce qu'il veut aujourd'hui, c'est ressusciter tout ce qui est mort en toi. C'est ton temps, c'est ton heure, c'est ton moment. C'est maintenant qu'il faut le faire. Je laisse quelques instants. Tenez-vous debout à votre place, simplement, et on va prier ensemble. Merci Seigneur. Voilà, levez-vous. Soyons pas timides, on n'est pas là pour s'observer, on n'est pas là pour se demander ce que les autres vont pouvoir dire, faire, penser. C'est entre toi et Dieu. Tu sais ta vie. Tu sais ce que tu vis, tu sais ce que tu ne vis pas, tu sais ce dont tu as besoin. C'est à toi dans ton cœur d'identifier, de dire Seigneur, là je suis enfermé. Seigneur, là j'ai peur. Seigneur, là il y a ça. Seigneur, je te supplie, je veux connaître la dimension de ta résurrection. Viens faire vivre mon âme, viens faire vivre mon cœur. Seigneur, je veux me mettre à table avec toi. Seigneur, je fléchis mon genou. Seigneur, je compte sur ton esprit, sur ta parole, parce que tu vas te révéler davantage, parce que tu vas animer mon cœur, tu vas animer ma vie. Parce que je ne veux pas être un disciple triste. Tu ne m'as pas sauvé pour que je vive enfermé. Tu ne m'as pas sauvé, Seigneur, pour que je marche lourd avec des chaussures de plomb. Tu m'as sauvé, Seigneur, pour que je sois un disciple plein d'amour, de joie, de liberté, de paix. Et je veux vivre en moi l'esprit de la résurrection. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce immense, infinie. Merci pour toutes les personnes qui sont là ce matin. Merci pour toutes les personnes nouvelles. Merci pour tous les disciples qui sont là. Merci pour tous tes bien-aimés. Seigneur, si tu es venu, si tu es mort et ressuscité, c'est pour chacun d'entre nous ici ce matin. Et je te prie pour celui, pour celle qui vit encore, Seigneur, avec des doutes, avec de l'enfermement, avec du deuil, avec la peur de l'avenir. Seigneur, avec tellement de blocages, tellement de limites, toujours écrasé, Seigneur, par des pensées négatives. Seigneur, je te prie afin que réellement, tu viennes te révéler, que tu les visites par le Saint-Esprit dans leur être intérieur et que tu amènes une nouvelle relation de foi, une nouvelle confiance, une nouvelle dimension de vie. Seigneur, merci parce que tu es la résurrection et la vie. Pour quiconque croit en toi, que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alléluia, soyez bénis. La chorale revient.